Europe Matin, Ombline Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Très bon réveil en ce mardi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30.
Quelle douce musique, idéale pour émerger le sourire aux lèvres. Et oui, Ombline, ce soir, c'est Ligue des Champions ou Koh-Lanta. Lionel Messi ou Denis Brognard, à vous de choisir. En tout cas, c'est vite vu pour les amoureux du ballon rond. Ce PSG Manchester City a tous les ingrédients pour être l'un des matchs de l'année, des stars sur le terrain donc. Mais aurons-nous une équipe côté parisien, 11 joueurs solidaires qui attaquent et défendent ensemble? C'est ce qui pêche depuis le début de la saison. Et puis, y a-t-il un problème? Kylian Mbappé, notre prodige national boudeur, voire qui s'agace contre ses partenaires, on va en parler à 6h10 avec notre consultant foot, l'ancien joueur et entraîneur du PSG, Laurent Fournier.
Et j'ajoute que le capitaine du PSG, Marquinhos, sera l'invité de Dimitri Pavlenko à 8h40 sur Europe 1.
On n'oublie pas le reste de l'actu Ombline avec un rendez-vous important ce soir à 18h.
Oui, le laboratoire de l'égalité va présenter son pacte 2022 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce texte, avec de nombreuses propositions, sera soumis ensuite aux candidates et aux candidats à la présidentielle. Si les femmes représentent aujourd'hui presque la moitié de la population active, pourquoi n'ont-elles pas accès à tous les métiers et à certains postes à responsabilité? Pourquoi à poste équivalent? L'écart des salaires entre femmes et hommes reste-t-il aussi important, de l'ordre de 19% en moyenne? Les stéréotypes ont la peau dure, c'est ce que nous dira Corinne Hirsch, la cofondatrice et vice-présidente du laboratoire de l'égalité à 5h40.
Juste après, ce sera la prescription culture. Nicolas Caro va nous faire découvrir le dernier livre de Cécile Coulon, un roman gothique à l'ambiance lugubre, inquiétante et envoûtante. Enfin, on écoute quoi ce matin, Ombline, dans votre partition?
Ils font partie des fondateurs du courant New Wave à la française, cette révolution musicale qui a secoué les années 80. Taxi Girl avait pourtant tout du groupe Maudit, le récit de ces musiciens désenchantés à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. Excellent début de matinée avec Europe 1, avec tout d'abord la météo. Bonjour Anissa Adali.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Un temps de Champions League aujourd'hui, plus sec et plus lumineux.
C'est parfait pour regarder le match ce soir si vous avez prévu de le regarder dehors. Alors globalement, c'est vrai qu'on a une journée bien plus lumineuse. Nous avons encore ce matin pas mal de grisailles. Soyez prudents si vous nous écoutez dans le Grand Est jusqu'au Lyonnais. Pas mal de brouillard ce matin. Actuellement, nous avons un petit peu de pluie sur les Pyrénées-Atlantiques entre Bayonne et Mont-de-Marsan. Quelques gouttes aussi ce matin sur la Bretagne, mais enfin globalement, la matinée est assez ensoleillée. Et cet après-midi, c'est encore le soleil qui l'emporte, même si nous avons un petit bémol en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et puis le long des côtes de la Manche où là, on aura quelques petites averses et puis surtout du vent qui va souffler fort entre 60 et 70 km/h. Alors les températures, là, il y a du changement. Il va falloir vous couvrir ce matin par rapport à hier. On a 6 à 16 degrés, 6 à Guéret, 8 degrés à Rouen. On a 10 degrés à Paris. À la même heure, on en avait 16 hier. 12 degrés à Agen et 20 degrés pour Marignane. Cet après-midi, c'est plutôt homogène. 17 à 23 sur la moitié nord et 23 à 27 sur la moitié sud.
Merci beaucoup Anissa Adadi. Place à l'info avec le premier journal de ce mardi 28 septembre. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Plus 12,6% sur notre facture de gaz à partir de vendredi. Hausse la plus importante annoncée par la Commission de régulation de l'énergie depuis 2013. Conséquence directe de l'explosion des cours mondiaux. Comment s'adapter? Illustration avec l'un des 3 millions de foyers concernés. Réunion au sommet ce matin chez les Républicains pour préparer le congrès qui doit désigner le futur candidat de la droite à la présidentielle. Les prétendants s'écharpent déjà autour de la date fixée du 4 décembre. Trop loin pour certains. Et puis les choses sérieuses commencent ce soir pour Messi, Mbappé et Neymar, PSG, Manchester City, face à face très attendue entre les deux équipes les plus chères de la planète. Et le journal de 5h vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. C'est un coup dur pour le porte-monnaie des Français qui se chauffent et cuisinent au gaz. L'explosion des tarifs réglementés à partir de vendredi, plus 12,6%. Conséquence directe de la forte demande d'après-crise qui fait s'envoler les prix. Une hausse inédite depuis 8 ans annoncée hier après-midi par la Commission de régulation de l'énergie. 3 millions de foyers utilisent le gaz au quotidien. C'est le cas de cette famille rencontrée par Zoé Pallier à Rueil-Malmaison en région parisienne.
C'est ici que ça se passe, donc on a une chaudière au gaz.
Du gaz pour se chauffer et pour l'eau chaude. Chez Laurent, Fabienne et leurs trois enfants, la facture s'alourdit depuis plusieurs mois et le couple redoute celle de l'hiver prochain.
Ici j'ai ma facture, donc c'est 108 euros par mois de gaz.
Voilà, donc je fais un calcul comme il faut. 12%, ça nous monte à 121 euros, soit une différence de 14 euros.
14 euros par mois, 168 euros par an, c'est autant de dépenses en moins pour les loisirs, par exemple.
Ça fait une belle somme, hein. C'est un restaurant en moins pour la famille.
Moi, j'aimerais bien avoir une augmentation de mon salaire de 12% cette année. Ça n'aura pas lieu.
Pas question pour autant d'abandonner le gaz pour une alternative. Trop de travaux à entreprendre. Alors, pour que la facture ne grimpe pas trop, la famille pense déjà aux ajustements du quotidien.
Voilà, la plus grande consommatrice d'eau. N'est-ce pas, Solène, avec les douches?
Oui. Je vais essayer de faire durer un peu plus courte, parce que sinon ça va coûter un peu plus cher.
De bonnes résolutions et surtout l'espoir que l'hiver n'arrive pas trop vite pour garder les radiateurs froids le plus longtemps possible.
Et pour alléger la facture, l'association de consommateurs CLCV appelle le gouvernement à baisser temporairement la TVA.
En politique, réunion tendue en perspective ce matin au siège des Républicains.
Oui, trois jours après la décision des adhérents d'opter pour un congrès réservé uniquement aux militants pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle, au cœur des discussions, l'organisation du scrutin qui devrait se dérouler dans un peu plus de deux mois, le 4 décembre prochain. Organisation à nouveau source de division, Alexandre Chauveau.
Oui, on pensait les querelles enterrées après le vote de samedi chez les Républicains, mais à peine les résultats connus, les différends ont repris de plus belle. Cette fois, c'est la date du 4 décembre qui fait débat. Xavier Bertrand, qui n'est plus membre du parti depuis 2017, la juge trop lointaine. C'est autant de temps pendant lequel nos thèmes ne seront pas mis en avant, souligne un proche, qui continue d'affirmer, sondage à l'appui, que Bertrand est le candidat naturel à droite. Plusieurs ténors du parti partagent le souhait du nordiste de n'avoir qu'un candidat le 4 décembre, qui serait en quelque sorte adoubé par les militants et qui permettrait d'éviter l'affrontement entre les prétendants. Mais cette hypothèse fait bondir ses concurrents. Dans une lettre envoyée hier soir à Christian Jacob, Michel Barnier réclame de la transparence et de la clarté, ainsi qu'un grand débat entre les candidats. On ne peut pas laisser les militants se faire voler l'élection, clame son entourage. Valérie Pécresse est également déterminée à aller jusqu'au bout du scrutin. Elle poursuit d'ailleurs sa campagne à la rencontre des adhérents LR, des adhérents qu'elle doit particulièrement convaincre après avoir quitté le parti en 2019.
Alexandre Chauveau du service politique, notez que Laurence Ferrari reçoit un invité exceptionnel à partir de 18h dans Punchline sur Europe 1. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy qui vient de sortir un livre, Promenade aux éditions Herscher. Après l'échec du contrat des sous-marins avec l'Australie, la France s'apprête à vendre 3 frégates de défense et d'intervention et 3 corvettes de classe Go Wind à la Grèce, annonce prévue ce matin à l'Elysée.
Sur le volet sanitaire, les stocks de sang sont à un niveau dangereusement critique.
Oui, l'établissement français du sang déplore une situation inédite. Il appelle donc tous les donneurs à se mobiliser, même sans rendez-vous. Et pour collecter massivement, 200 préleveurs vont être recrutés. Il ne reste que 77 000 poches de globules rouge. Il en faudrait près de 25 000 supplémentaires, des stocks lourdement affaiblis après un an et demi de crise sanitaire, explique Hervé Menrad, directeur de collecte à l'EFS.
Il y a eu le fait qu'il y a eu beaucoup de télétravail et donc beaucoup moins de présence sur les entreprises où on arrivait encore à se présenter. Et puis les universités qui ont été fermées pendant de nombreux mois avec du cours à distance et donc les étudiants n'étaient plus sur place. Donc on a perdu beaucoup de donneurs, c'est des milliers de poches qu'on a eu du mal à compenser par ailleurs. Le pass sanitaire, la vaccination, tout ce qui entraîne des modifications dans l'organisation de la vie des Français impacte très fortement la fréquentation de nos collectes. Si on continuait à descendre encore plus bas sur notre stock de produits disponibles, les activités qui pourraient être touchées, ce sont des activités programmées qui nécessitent par anticipation de prévoir des poches de sang. Et à ce moment-là, ces activités programmées seraient repoussées à des dates ultérieures pour garantir qu'on ait suffisamment de poches de sang pour traiter, par contre, toutes les urgences.
Des propos recueillis par Johanna Chabas pour Europe 1.
Le procès des attentats du 13 novembre entre dans une nouvelle phase ce mardi.
Celle des témoignages, des rescapés, des proches de victimes décédées. Jusqu'à fin octobre, 300 personnes défileront à la barre pour raconter ce qu'elles ont vécu. Cet après-midi, l'audience sera consacrée au Stade de France. 3 explosions, 1 mort, 63 blessés et parmi eux, Sarah, 28 ans. Si elle n'a pas souhaité témoigner au procès, elle prend la parole sur Europe 1 ce matin.
J'étais à côté du kamikaze, c'est là où il y a eu la première détonation, donc j'ai été projetée à terre. Brouillard, j'entendais plus rien. J'ai couru au niveau de la porte D, tout droit. Enfin, j'ai pas couru, hein. J'ai vu un policier qui m'a directement porté secours. Et au moment où on m'a mis la couverture de survie, la deuxième détonation a retenti. J'étais complètement effrayée. Je suis partie à l'infirmerie, je suis restée jusqu'à au moins minuit et demi. Donc on ne pouvait pas me donner d'antidouleur ni rien parce que j'avais une grosse blessure au niveau du front. Je n'ai pas que ça comme cicatrice. Hein. Honnêtement, j'ai 18 impacts dans le corps. Mais bon, on vit avec. Personne n'a mérité ça. Enfin, ils attaquent des personnes. On est sans armes, on n'a rien. On n'a rien pour se défendre. C'est dégueulasse de faire ça.
Sarah, qui s'est confiée à Marion Dubreuil, assistera tout de même à l'audience aujourd'hui.
De l'autre côté de la Manche, les Britanniques vont devoir laisser leur voiture au garage.
Oui, puisque 50 à 85% des stations-service sont à sec. Ce n'est pas le carburant qui manque, mais les chauffeurs routiers pour approvisionner les stations. Avec le Brexit, jusqu'à 25 000 camionneurs européens ont quitté le pays et ce ne sont pas les 5 000 visas temporaires annoncés qui régleront le problème, selon les organisations professionnelles. Alors le gouvernement britannique a appelé hier soir l'armée à se tenir prête à acheminer le carburant elle-même. Reportage en Angleterre avec notre correspondante Anaïs Cordoba.
Dans cette station-service du nord de Londres, il ne reste que du diesel. Bachir, chauffeur de VTC, a déjà tenté sa chance chez 5 distributeurs avant de trouver son bonheur ici.
J'ai de la chance d'avoir trouvé ici. C'est plus cher, mais je préfère ça qu'être à sec. Ah, vous avez vu ? La pompe a stoppé automatiquement. Je voulais un plein pour 30 livres, mais ça s'arrête à 28.
Le seul carburant qui reste est rationné et à l'entrée de la station, un employé renvoie tous les automobilistes qui cherchent de l'essence.
Je suis enseignante, je n'ai presque plus d'essence. J'ai déjà fait 3 stations-service, mais là je vais rentrer pour ne pas en gaspiller plus, car il me reste juste assez pour aller travailler demain, mais pas pour rentrer après.
Je n'étais pas contre le Brexit au début, mais là ça nous rend la vie difficile. Maintenant je commence à m'inquiéter et j'ai changé d'avis.
Hier, face à l'ampleur de la pénurie, des syndicats de médecins et le maire de Londres ont appelé le gouvernement à octroyer le carburant disponible en priorité aux travailleurs essentiels. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et face à ces pénuries, certaines écoles envisagent de repasser en enseignement à distance si le problème persiste.
En football, Ligue des Champions avec la première grosse affiche de la saison ce soir.
PSG, Manchester City, c'est aussi la revanche de la dernière demi-finale de Ligue des Champions perdue par Paris avec, on peut le dire, Cyril de la Morinerie, une pluie de stars sur le terrain.
Oui, c'est simple. Ce sont les deux effectifs les plus chers du monde. Prix de l'équipe du PSG ou de Manchester City, 1 milliard d'euros. D'un côté, Paris et sa fameuse M&M, Messi, de retour dans le groupe après 2 matchs d'absence, Neymar et Mbappé. Certes, ce trio fantastique n'a que 125 minutes de vie commune, mais il fait peur à tout le monde. En face, un collectif d'artistes, notamment Kevin De Bruyne, élu à 2 reprises meilleur joueur du championnat anglais au service d'un entraîneur légendaire, Pep Guardiola. D'ailleurs, son homologue parisien Mauricio Pochettino ne tarit pas d'éloges à son sujet.
Nous avons joué contre Manchester City qui, selon moi, est le meilleur entraîneur du monde, Pep Guardiola, et qui a aussi le rêve de gagner la Ligue des Champions comme nous. Mais il faut être patient. Ne soyons pas hypocrites. Dans ce processus, Manchester City est plus avancé que nous, mais c'est un match de foot, tout peut arriver.
Tout peut arriver, même si Paris n'a jamais battu Manchester City. Le club anglais s'est offert le week-end dernier le vainqueur de la Ligue des Champions, Chelsea, et donne le tournis à tous ses adversaires. Malgré ses débuts canons en Ligue 1, Paris doit s'attendre à souffrir ce soir au Parc des Princes.
Et dès 20h, vivez en direct sur Europe 1 le match PSG-Manchester City avec Lionel Rosso et les experts du service des sports d'Europe 1. Émission à suivre jusqu'à 23h30.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h10 sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne et mon pari gagnant sera le 301 Out of Risk. Voilà une pouliche promise à un bel avenir sur les obstacles. Après avoir été bonne deuxième pour ses débuts à Auteuil le 20 mars, elle s'est ensuite imposée très facilement le 10 avril, toujours à Auteuil. Volontairement ménagée depuis, je sais qu'elle a passé un bel été aux bons soins de son entraîneur David Cottin et en dépit de 5 mois d'absence, je la crois capable de réaliser d'emblée une rentrée victorieuse. Alors notez bien, pour cet après-midi à Compiègne, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 1, Out of Risk.
Out of Risk, merci Thierry Léger et rendez-vous dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Vous écoutez Europe 1, merci de votre fidélité. À suivre le pressing.
Votre revue de presse décalée avec au programme une fausse bombe larguée par erreur. Le chewing-gum fait toujours des bulles, mais moins des mules et les nouveaux joujoux de la police scientifique. À tout de suite.
Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil en ce mardi 28 septembre, il est 5h12 et c'est l'heure d'ouvrir le pressing le plus matinal de France.
Oui, quels articles ont retenu notre attention ce matin? Nous sommes trois à avoir épluché la presse pour vous. Effectivement, nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Mouline, bonjour Julien.
Bonjour Martin. On jette tout d'abord un œil sur les unes de vos journaux. Macron cherche à retrouver l'élan de 2017, titre Le Figaro. Alors que les discours des candidats comme Sandrine Rousseau ou Éric Zemmour se durcissent, le chef de l'État cherche la bonne posture, le bon ton à adopter pour retrouver le souffle de sa première campagne, analyse Le Quotidien. Un tout autre sujet à la une de Libération, IVG, ces Françaises obligées d'avorter à l'étranger, titre le journal à l'occasion de la journée mondiale du droit à l'avortement. Et puis L'Équipe consacre sa une au choc ce soir en Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City, opération Sky Blues, titre Le Quotidien avec pour illustration Messi, Neymar et Mbappé. Voilà pour les unes, Omblin, on commence avec vous.
On se rend à Lucmaux, charmant petit village de 250 habitants dans le sud de la Gironde. Lucmaux, c'est maison en pierre, son église du XIIe siècle, sa jolie mairie au volet bleu et son champ de tir militaire, le champ de tir de Capiteux. Lucmaux, comme les communes voisines, cohabite avec l'armée. C'est aujourd'hui en France qui en parle ce matin. Et donc à Lucmaux, et dans tout le secteur, on entend les chants des oiseaux et les mitraillettes qui pétaradent. Et lorsque les avions rafales effectuent des vols rasants, eh bien, ça fait trembler les bouteilles sur les étagères et vibrer les tuiles des maisons, nous dit le maire de cette charmante petite commune. Autant vous dire que dans ce coin de campagne, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Je ne parle pas des 17 jours de manœuvre militaire avec 70 bombes tirées. Je ne parle pas non plus des 450 hectares de camp brûlés lors d'un incendie, ça c'était l'an dernier.
Sympa.
Après une autre séance de tir, oh bah oui c'est sympa.
Alors que la zone était en vigilance orange incendie déjà. Hein.
Exactement, on était en septembre. Je parle de la boulette de la semaine dernière, une fausse bombe larguée par un mirage dont on n'arrive pas à retrouver la trace, c'est quand même ballot. Alors là pour les habitants, trop c'est trop. Ce tube bleu d'1m90 a été égaré dans un secteur long de 80 km. Le chef du service d'information et relations publiques de l'armée de l'air se montre forcément rassurant en disant qu'il y a quand même plus de chances que ce simulateur, cette fausse bombe, se soit décrochée côté militaire que côté civil. Et puis ne mélangeons pas tout. Les bombes inertes pèsent 200 kilos. Là, il s'agit seulement d'un dispositif qui donc simule la trajectoire d'une bombe. L'objet ne pèse que 40 kilos. Oui. Alors passe encore les impacts de tir. Hein.
Enfin 40 kilos largués à 1000 mètres d'altitude, ça fait du dégât. Hein.
Imaginez sur une maison. Voilà, imaginez sur une maison. Ça reste en travers de la gorge des élus voisins du camp militaire. Ils pointent du doigt le manque de communication et l'absence de remontées économiques. Bah oui, au moins on a un camp militaire à côté, autant qu'il y ait des avantages. Comme par exemple...
Il n'y a pas de taxe foncière, d'habitation,
tout
ça ?
Bah non, il n'y a pas de rabais.
Ah oui.
Non, c'est comme tout le monde, c'est comme partout. Concernant la fausse bombe, les riverains sont invités à ouvrir l'œil, mais en revanche, prière de ne pas toucher, c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France.
Merci beaucoup, Omblin, pour cette histoire explosive, j'ai envie de dire. Martin, quel article avez-vous retenu ?
Une crise ce matin, une de plus due à la pandémie, celle qui frappe l'industrie du chewing-gum. Leurs ventes ont chuté de plus de 20% l'année dernière en France, une baisse qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui s'est largement amplifiée avec le Covid, comme le confirme une cadre d'Hollywood Chewing-gum au site Business Insider.
Alors comment on l'explique cette chute?
Eh bien assez simplement, avec les différents confinements, le couvre-feu, la généralisation du télétravail, les interactions sociales se sont réduites à peau de chagrin. Et pourquoi on mâche des chewing-gums? Souvent pour avoir une bonne haleine. Ouais. Bref, si l'on voit personne, à quoi bon mâcher? Plus sérieusement, la consommation de chewing-gum a été compensée par le lavage de dents chez soi et puis le port du masque aussi n'a pas facilité la consommation de ces friandises.
Et puis les habitudes de consommation des Français ont aussi changé?
Tout à fait, c'est encore une conséquence du Covid. Les Français ont déserté les supermarchés marché ces derniers mois, privilégiant la livraison à domicile. Or, les ventes en magasin représentent 88% des ventes de chewing-gum en France, quand le drive ne pèse encore que 5% du marché. C'est vrai que le paquet de chewing-gum, ce n'est pas vraiment l'achat qu'on anticipe sur Internet, mais plutôt l'achat compulsif au dernier moment lorsqu'on arrive à la caisse.
Mais Martin, tout ça, ce sont des habitudes ces habitudes qu'on ne va pas forcément perdre après le Covid.
Effectivement, et c'est ce qui inquiète les professionnels, la multiplication des caisses automatiques, mais du paiement par téléphone, tout ça, ça déporte l'attention du consommateur qui ne fait plus attention aux rayons confiserie proche des caisses. Ajoutez à cela l'image négative qui entoure le chewing-gum, bourré de produits chimiques, mauvais pour la santé et j'en passe. Même auprès des plus jeunes, son image a changé. Il était perçu comme un accessoire cool, un indispensable de la pop culture. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Pourquoi les Français mangent de moins en moins de chewing-gum? C'est à lire sur Business Insider.
Moi je mâche des chewing-gums,
c'est bien mieux que leur truc à la gomme. Mesdames, messieurs, vous pourrez voir comme moi, je mâche des chewing-gums.
C'est Fernandel ?
C'est Fernandel, exactement.
On a tous attrapé des bonbons aux caisses, effectivement.
Oui.
Hein.
Mais vous dites les enfants, mais...
Ou on les a volés, n'est-ce pas, Ambline ?
Jamais, ça va pas. Hein. Bah alors,
vous disiez les enfants, Julien, mais on se laisse tenter aussi, hein, de temps en temps.
Oui, non, mais c'est souvent les enfants qui, je vois, hein, j'en ai pas, mais qui tirent la manche de leurs parents en disant hey, « Eh maman, t'as vu les chewing-gums ?»
Ah, les bonbons.
Ah, moi, je les prends, j'ai besoin de tirer la manche de personne.
Merci Martin, j'ai choisi pour ma part un article à lire dans le Figaro qui nous emmène dans l'antre très sécurisé du Service National de la Police Scientifique. Bienvenue chez les experts Écully, du nom de cette commune de la banlieue lyonnaise. C'est ici que les meilleurs techniciens de la police analysent et décortiquent toutes sortes d'indices, de preuves pour aider les investigations des collègues, comme ils disent, sur le terrain. Mais dans ce laboratoire, on ne fait pas qu'agiter des écouvillons ou des pinceaux. Non, on innove également, on invente la police scientifique de demain. Car après avoir fait parler les empreintes digitales depuis plus d'un siècle, fait de l'ADN une reine des preuves à partir des années 90, l'enquête en blouse blanche entre aujourd'hui dans une troisième révolution, le numérique. C'est ainsi qu'est né des outils tels que CrimIn, une sorte de calepin numérique que les policiers de terrain utilisent depuis janvier pour avoir à tout moment toutes les informations dont ils ont besoin. Un doute sur les déclarations de tel ou tel témoin, hop, on ressort son PV d'audition sans avoir à repasser au bureau. Le capitaine Roche prend des photos en planque, elle peut les ajouter à la volée dans le dossier numérique de l'enquête pour que son collègue, le lieutenant Lange, puisse les consulter depuis son canapé, car oui, le lieutenant Lange aime beaucoup son canapé. Les experts Écully testent aussi toute une panoplie de joujoux high-tech. La prise d'empreinte avec de l'encre, ce sera bientôt de l'histoire ancienne grâce à un petit cube que les enquêteurs auront dans leur poche,
ah bah oui.
Un scanner mobile qui reproduit le tracé de chaque doigt sur un écran. C'est plus fiable et surtout plus rapide.
Ils ont ça en mairie déjà, alors, de la prise d'empreinte pour les passeports.
Absolument. Ouais. Sauf que là, c'est encore plus petit.
Ouais.
Hein, ça ressemble vraiment à... C'est 3 cm sur 3 cm.
Ah oui.
Et c'est surtout plus rapide, hein, puisque, et c'est pas un luxe quand on sait qu'il aura fallu 4 jours pour mettre un nom sur les 86 personnes tuées dans l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Autre innovation à venir, des scènes de crime capturées en 3 dimensions. Grâce à une caméra à 360 degrés, il est désormais possible d'avoir une vue complète, sans angle fixe et figé, comme avec de simples photos. On peut même, grâce à un casque de réalité virtuelle, se déplacer sur les lieux des mois, voire des années après le crime. C'est bluffant. Et interactif, vous pouvez par exemple zoomer à votre guise sur l'âme du crime et cliquer sur le point rouge juste au-dessus qui permet d'avoir accès immédiatement au rapport balistique. C'est une technologie qui va permettre aux magistrats notamment de mieux se représenter les faits qu'ils vont devoir juger. C'est un article passionnant et c'est à lire aujourd'hui dans le Figaro.
Merci beaucoup Julien, rideau sur le pressing et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce mardi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Moins de pouvoir d'achat pour 3 millions de foyers qui se chauffent et cuisinent au gaz. Les tarifs réglementés explosent à partir de vendredi, plus 12,6%, la plus forte hausse en 8 ans. SOS Médecins, nouveau joignable ce matin à partir de 8h. Une grève suivie par 100% des structures, assure la Fédération, pour obtenir une majoration du tarif des visites à domicile, même si certaines ont été réquisitionnées pour les gardes de nuit. Plus de la moitié des stations-service britanniques à sec, les voitures s'agglutinent et les conducteurs en viennent parfois aux mains. Il ne manque pas de carburant mais de chauffeurs routiers pour approvisionner les stations. Le gouvernement britannique appelle l'armée à se tenir prête pour acheminer le carburant. Du foot à suivre ce soir avec le choc de Ligue des Champions PSG Manchester City. À cette occasion, Marquinhos est l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1 ce matin. Objectif de la saison, arrivée de Messi, le capitaine parisien se confiera à partir de 8h40.
Europe 1. Il est 5h21, très bon réveil. Et à présent, ce sont les initiatives en France. On met en lumière chaque matin celles et ceux qui font bouger les lignes ce matin, Julien. Eh bien, ça se passe en Alsace.
Bonjour Anne-Gaëlle Bartos.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes la directrice adjointe de la Fédération des aveugles Alsace-Lorraine-Grand-Est. Et vous avez inauguré dimanche une champignonnière bio installée dans un ancien bunker à Strasbourg. Expliquez-nous.
Oui, alors en fait, on a repris une champignonnière déjà existante qui avait fermé ses portes il y a 3 ans, puisque nous, Fédération des aveugles, nous avons dans nos locaux une 50aine de personnes en situation de handicap qui travaillent. Et notre objectif, c'est vraiment de développer de nouvelles activités pour les faire monter en compétences sur de nouveaux métiers. dont là, être ouvrier de champignonnière. Donc c'était une très bonne occasion pour trouver de nouvelles activités.
Parce que le champignon, c'est la culture idéale pour des personnes aveugles ou malvoyantes ?
Oui, ça peut être l'activité idéale, puisque la culture du champignon, en fait, il faut de l'attente, de l'observation. Ça pousse dans le noir, principalement. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière. Donc, c'est idéal pour les personnes en situation de handicap visuel. Voilà.
Enfin, ça pousse vite quand même, hein. Je crois que vous en récoltez déjà pas mal de kilos.
Oui, tout à fait. À un moment, on va atteindre les 150 kilos par semaine. On n'est pas encore au taquet de ce qu'on peut faire, mais ça pousse très très vite puisque un champignon double de son volume toutes les 24 heures.
Vous produisez quelle variété de champignons exactement ?
Alors nous produisons des pleurotes et des shiitakes.
Les shiitakes qui sont une variété asiatique, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et vous les vendez où tous ces champignons ?
Alors on aura plusieurs canaux de vente puisque on aura un moment et ce sera diffusé sur nos réseaux sociaux. On aura une permanence directement au bunker, puisque c'est une demande hein, des personnes de venir directement au bunker pour chercher des champignons.
Donc de la vente directe.
Nous le vendrons également à notre magasin, 27 rue de la Première Armée, qui se trouve au centre-ville de Strasbourg. Et nous vendrons également aux restaurateurs et aux AMAP.
L'argent de la vente des champignons va servir à quoi ? À payer le salaire de vos salariés, c'est ça ?
On est une association à but non lucratif. On remet cet argent pour pouvoir accompagner les personnes handicapées visuelles dans tous les domaines, que ce soit social, au niveau de l'emploi. Donc c'est réinjecté en interne en faveur des personnes handicapées.
Le but, c'est de les former pour que plus tard, s'ils le souhaitent, ils deviennent par exemple maraîchers ?
Oui, tout à fait. Ou aide aux maraîchers, au maraîchage. Hein. Puisque en fait, ce qu'il y a, c'est qu'un de nos objectifs, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap qui sont temporairement pas en capacité de travailler en milieu ordinaire de travail. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de les former à ce nouveau métier, de les faire monter en compétences et pouvoir, s'ils le souhaitent, les faire sortir en milieu ordinaire et proposer aux maraîchers leurs compétences et leurs candidats.
D'ailleurs, cette champignonnière, je crois, ce n'est qu'une étape dans un projet beaucoup plus vaste, c'est ça ?
Tout à fait, puisqu'en fait, la Fédération des aveugles a créé une nouvelle marque qui s'appelle le Licht.
Pardonnez-moi, le Licht, si je me réfère à mes maigres connaissances en allemand, ça veut dire la lumière, c'est ça ?
Ça fait référence, en fait, on voudrait faire sortir les personnes handicapées visuelles. Je vais vous expliquer vraiment ce concept-là, le Licht. Donc, c'est plusieurs activités, puisque la champignonnière en est une. Mais il y a également, on est en cours et c'est quasiment terminé, on a installé une cuisine adaptée et connectée aux personnes handicapées visuelles. Nous avons de l'électroménager spécifiquement adapté au handicap visuel avec des objets qui se commandent à la voix ou avec Google Home ou Alexa. Donc, quel est l'objectif de cette cuisine adaptée ? Cette cuisine adaptée servira à nos membres pour des ateliers, pour les faire reprendre confiance en elles, pour leur faire réapprendre les gestes du quotidien pour les personnes qui ont perdu la vue en cours de vie.
Et éventuellement les former à devenir par la suite des commis, voire des cuistots ?
Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, les former au métier d'aide cuisinier et également faire venir des chefs cuisiniers, organiser des petits ateliers avec des chefs cuisiniers ou des chefs étoilés pour vraiment sensibiliser également tout ce corps de métier au handicap visuel. Ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment mettre notre association en lumière pour pouvoir sensibiliser le grand public au handicap visuel et sensibiliser les professionnels pour aider à l'insertion des personnes handicapées visuelles et handicapées en situation de handicap dans notre société.
Merci beaucoup, Anne-Gaëlle Bartos, d'avoir partagé avec nous ces belles initiatives menées par la Fédération des aveugles Alsace-Lorraine Grand Est, initiative que vous pouvez d'ailleurs soutenir en faisant un don. Ça se passe sur votre site aveugle au pluriel -grand-est.fr. Bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup, bonne journée.
Europe 1. Le dernier jour de disco. C'est la fin.
Juliette Armanet sur Europe 1 avec le dernier jour du disco. C'est le premier extrait de son deuxième album qui va s'appeler Brûler le feu, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Et Juliette Armanet, elle débutera une tournée le 22 janvier prochain à Nîmes. Vous écoutez Europe 1 sur la fréquence 94.8.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour, bon réveil. Demandez le programme. Dans un quart d'heure, ce sera votre prescription culture.
Nicolas Carreau a lu pour vous, Seul en sa demeure, le dernier livre de Cécile Coulon, un roman gothique qui nous plonge dans une vaste demeure inquiétante au 19e siècle dans le Jura. Frisson garanti. Et puis, juste avant, Omblin, il sera question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail.
Oui, parce qu'aujourd'hui, à poste et temps de travail équivalent, les femmes gagnent moins bien leur vie que les hommes. Un écart de salaire de l'ordre de 19% en moyenne à 7 mois de l'élection présidentielle. Le laboratoire de l'égalité présente aujourd'hui de nombreuses propositions afin d'ajuster le curseur. Ce pacte 2022 pour l'égalité professionnelle, l'association compte le faire signer aux candidats et aux candidates à la présidence de la République. On va en parler avec la cofondatrice et vice-présidente du laboratoire de l'égalité.
Parité en tout cas respectée dans ce studio, puisque Christophe Lamar est en train de s'installer pour le journal, et Anissa Haddadi est là pour la météo. Ma chère Anissa, on va vers le mieux.
On peut faire un Kems, hein, mais sinon je peux vous donner la météo. Alors on va vers du mieux, oui, globalement. Ouais. La journée est bien plus agréable aujourd'hui, on a beaucoup plus de soleil. Alors ce matin, il va quand même falloir être patient, hein, puisque dans l'Est, en Alsace, en Lorraine, en Bourgogne, en Franche-Comté, dans le Val-de-Saône, jusqu'au Lyonnais, dans les Alpes du Nord, on a beaucoup de brouillard ce matin. Soyez très prudents sur la route. On a des entrées maritimes aussi sur la Côte d'Azur. On a des averses ce matin en Bretagne, quelques petites gouttes également entre Bayonne et Auch. Et puis cet après-midi, le soleil va vraiment dominer presque partout, hein. En Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France, là on a un petit peu plus de nuages menaçants qui risquent de lâcher quelques gouttes. Et puis entre la Gironde et le Limousin, là aussi c'est couvert. 6 à 18 degrés ce matin, cet après-midi. 17 à Saint-Brieuc, ça baisse. Hein. 18 à Saint-Étienne, 20 degrés à Paris, 22 pour Biarritz et 27 à Marseille.
On est chaud pour le Kems. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, votre journal, 5h30.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Aujourd'hui, les délais sont trop courts et ça amène à ce que entre 3000 et 5000 femmes partent chaque année à l'étranger pour avorter.
L'appel de la députée Alban Gaillot pour un allongement du droit à l'avortement en France de 12 à 14 semaines. La proposition de loi existe, mais les parlementaires et la majorité jouent la montre. Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau, on connaîtra en milieu d'après-midi le candidat des écologistes à la présidentielle. Le second tour de la primaire reste totalement indécis. Marine Le Pen veut plus de droits pour les Français, moins pour les étrangers. La candidate du Rassemblement National promet un référendum sur la question de l'immigration si elle est élue à la présidence. Et puis PSG Manchester City ce soir, deuxième journée de la Ligue des Champions et des stars du ballon des deux côtés de la pelouse. Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Elles sont entre 3 et 5 000 chaque année, des Françaises obligées de franchir la frontière pour pouvoir interrompre leur grossesse. La raison est à la fois simple et cruelle. Elles sont hors délai, c'est-à-dire qu'elles ont dépassé la limite légale fixée à 12 semaines en France. Il existe bien une proposition de loi qui permettrait de l'amener à 14 semaines, mais le Parlement et la majorité traînent les pieds. Des associations et des élus veulent profiter de la journée mondiale du droit à l'avortement pour rouvrir ce dossier. Virginie Riva.
C'est une demande de longue date pour des associations comme le planning familial. Pour elle, la loi de 1975 propose des délais trop courts. Alban Gaillot, députée ex-LREM, a porté la proposition de loi d'extension du délai légal de 12 à 14 semaines.
Les autres pays, par exemple comme l'Espagne, sont à 14 semaines, la Suède 18 semaines. Aujourd'hui, les délais sont trop courts. Ça amène à ce que entre 3000 et 5000 femmes partent chaque année à l'étranger pour avorter. Ce n'est pas forcément les plus précaires. Ce n'est pas qu'une histoire de coût. Il y a vraiment un sujet d'information. C'est les femmes les plus jeunes ou les femmes victimes de violences conjugales, par exemple.
Le comité consultatif d'éthique a même donné son feu vert. Mais pour le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France, ça n'est pas la solution. Geoffroy Robin, secrétaire général.
Le fœtus est plus gros. Donc c'est en effet plus difficile avec théoriquement un petit peu plus de risque de complications également de l'intervention. Mais à la limite, ce n'est pas forcément ça le principal problème. C'est surtout que pour nous, en France, il faudrait pouvoir faciliter l'accès à des plateaux techniques qui réalisent de l'IVG le plus tôt possible.
Geoffroy Robin qui rappelle que l'interruption médicale pour raison psychosociale est possible jusqu'à la fin de la grossesse. Olivier Véran sera questionné à l'Assemblée cet après-midi sur le sujet.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1.
La campagne pour la présidentielle, les écologistes connaîtront en fin d'après-midi le nom de leur candidat ou candidate.
Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau, les paris sont ouverts. Le vote aussi depuis samedi. 122 000 électeurs militants et sympathisants sont appelés à se prononcer. Le résultat de ce second tour sera connu à 17h30 et il est difficile, voire imprudent, de donner un favori, Jacques Seret.
Oui, difficile de prévoir qui va l'emporter ce soir. Yannick Jadot et son écologie de gouvernement ou bien Sandrine Rousseau, écoféministe radicale. À quelques heures de l'annonce du résultat, le suspense est à son comble chez les écolos. Tant le premier tour de cette primaire a brouillé les pistes la semaine dernière, Yannick Jadot, parti grand favori de ce scrutin, n'a récolté que 2700 voix de plus que Sandrine Rousseau. Et depuis, ni Delphine Bateau, arrivée troisième, ni Éric Piolle, quatrième, n'ont donné de consigne de vote à leurs électeurs. Et dans cette primaire, le corps électoral reste le même entre le premier et le deuxième tour. Impossible de prendre le train en marche pour ceux qui voudraient donner leur faveur à l'un ou à l'autre. Les inscriptions pour pouvoir voter étant clôturées depuis le 12 septembre. Au total, ils sont donc un peu plus de 122 000 militants et sympathisants à être en mesure de trancher. Le vote en ligne est ouvert depuis samedi matin. Il se clôture cet après-midi à 17h. Jadot ou Rousseau, le nom de celui ou celle qui sera candidat à la présidentielle devrait être annoncé vers 17h30.
Jacques Seret, les Républicains ont enterré la primaire ouverte pour désigner leur candidat, mais il faut encore déterminer l'organisation du vote des militants prévu le 4 décembre. C'est l'objet du comité stratégique qui débute ce matin. Bien plus à droite sur l'échiquier, Marine Le Pen revient à ses fondamentaux. Malmenée dans les sondages par l'ombre d'Éric Zemmour, la candidate du Rassemblement National détaillera dans l'après-midi son projet pour l'immigration. Elle en a dévoilé les grandes lignes hier soir sur France 2. Et si elle est élue, elle proposera un référendum sur la préférence nationale.
Ce référendum, il porte sur un projet de loi complet qui vise à réguler drastiquement l'immigration, à rétablir des critères stricts pour l'entrée et le maintien sur le territoire, mais aussi pour l'acquisition de la nationalité française, qui met en œuvre la priorité nationale, c'est-à-dire la priorité pour les Français, notamment à l'accès au logement social, mais aussi à l'emploi. Donc, dans ce référendum, il y a une partie qui est une partie constitutionnelle où j'intégrerai précisément la priorité nationale et où je considère aussi que les étrangers auront évidemment tous les droits et libertés qui ne sont pas précisément réservés aux Français.
Marine Le Pen hier soir sur France 2.
Jean Castex à Bordeaux aujourd'hui pour relancer la construction de logements sociaux.
Le Premier ministre ouvrira le congrès HLM alors que les Français éprouvent de plus en plus de difficultés à se loger. Il y a les mises en chantier insuffisantes, mais il y a aussi l'inflation des prix de l'immobilier à l'achat comme à la location. Résultat, les ménages se replient vers le logement social. Le nombre de demandeurs a bondi de 20% en 8 ans. L'inflation qui touche aussi les prix de l'énergie, ceux du gaz augmenteront de 12,6% vendredi. Quatrième hausse consécutive depuis le 1er juillet. Elle concerne les abonnés aux tarifs réglementés du gaz, soit environ 3 millions de personnes.
La Corée du Nord continue de jouer avec les nerfs de la communauté internationale.
Pyongyang parle d'un droit légitime, celui de tester des armes face à l'hostilité américaine dans la région. C'est ainsi que s'est justifié l'ambassadeur de Corée du Nord devant le Conseil des Nations Unies après le tir d'un projectile non identifié en mer, le troisième depuis le début du mois, probablement un missile balistique, affirment les autorités japonaises. Pfizer teste un vaccin à ARN messager contre la grippe. Le laboratoire affirme avoir injecté les premières doses sur une centaine de personnes de 65 à 85 ans aux États-Unis. L'essai clinique doit vérifier la sûreté de ce sérum.
Football, c'est le match que l'on attendait dans cette Ligue des Champions, l'opposition entre le Paris Saint-Germain et Manchester City.
Et ça, dès la deuxième journée, Julien, les deux favoris du groupe vont en découdre et pouvoir se jauger. Les stars seront des deux côtés, c'est vrai, avec Neymar, Messi et Mbappé, bien sûr, du côté parisien. Et leurs supporters y croient plus que jamais. C'est bien ça, Cédric Chasseur.
Eh bien, le maître mot, c'est l'optimisme. Écoutez par exemple Steve, supporter du PSG. Pour lui, Paris a les armes pour battre City.
Moi, je suis assez confiant. Il y a plus d'expérience dans l'équipe maintenant. On a des joueurs qui sont tip-top mondial, donc je pense que franchement, cette année, on a les moyens de rivaliser.
Le mot « revanche » revient aussi chez beaucoup de supporters. Ils ont encore en travers de la gorge l'élimination face à Manchester City en demi-finale de la dernière Ligue des Champions. Des Citizens toujours aussi impressionnants cette saison, mais cela n'inquiète pas Gauthier, autre fan du PSG.
Pour le moment, la Ligue 1, 8 matchs, 8 victoires.
difficile, mais on s'entraîne. Messi va revenir, on va faire du sale à partir de mardi. Ça va commencer, la saison va décoller.
Et s'il fallait un grand rendez-vous pour assister au match le plus abouti du PSG cette saison, c'est aussi le sentiment d'Ismaël.
Moi, j'ai envie de voir une équipe offensive qui va vers l'avant avec Messi, Neymar, Mbappé, voire même Di Maria. Je veux du jeu, je veux des buts. Je pense que ça peut être un gros tournant. Si on a le premier but de Messi au Parc des Princes, ça pourrait être incroyable.
Est-ce que ce scénario de rêve se réalisera ? Début de réponse ce soir, dès 21h.
Et ce sera à suivre sur Europe 1, dès 20h, émission spéciale Ligue des Champions. Un mot de Ligue 2, première défaite de la saison pour Toulouse, battue 3-2 par Caen. Les Toulousains conservent malgré tout la tête du championnat.
Merci beaucoup Christophe Lamarre pour ce journal. On retrouve maintenant Thierry Léger pour les courses et les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, il y aura un Quintet Plus cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne. Un handicap sur les haies sur la distance de 3800 mètres. Avec 15 partants et non 16 comme initialement prévu, le numéro 6 ayant déclaré forfait. Il est légitime de faire confiance au numéro 5 d'Antor des Obos, excellent second d'un Quintet similaire le 1er septembre à Auteuil, mais aussi au numéro 2 Kim River et 11 Tchenko Magic, arrivés respectivement 4e et 6e ce jour-là, non loin de Dantor des Obos. Derrière ces trois indissociables, méfiez-vous de Foreign Flower, le numéro 7, dont la course de rentrée le 17 septembre à Auteuil, où il se classait 6e, laisse augurer cette fois un bien meilleur classement avec Béton Gamery, le numéro 4, avantagé par l'alourdissement du terrain. Enfin, les numéros 3 Saint-Anjou, 10 Chestnut Dream et 16 Fences compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 2, 11, 7, 4, 3, 10 et 16.
Et ces pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h39, vous restez avec nous. Cette interrogation qui persiste en 2021. Pourquoi, à poste et à profil équivalent, l'écart des salaires entre les femmes et les hommes reste-t-il aussi important ? À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bon réveil, bon début de matinée en ce mardi 28 septembre. Il est 5h41 et c'est aujourd'hui que le laboratoire de l'égalité va présenter son pacte 2022 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce texte avec de ses nombreuses propositions sera ensuite soumis aux candidates et aux candidats à la présidentielle. On en parle en ligne avec Corinne Hirsch, la cofondatrice et vice-présidente du laboratoire de l'égalité.
Bonjour Corinne Hirsch.
Bonjour.
La semaine dernière, ici même dans la matinale d'Europe 1 à notre micro, le directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, nous indiquait que l'écart de salaire entre les femmes et les hommes à profil identique était en moyenne, et ce depuis une dizaine d'années, de 8%. Alors si dans la mémoire collective, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes serait quasi acquise, clairement, dans la réalité, on en est encore loin. C'est le constat que vous faites ?
Oui, d'autant plus que nous, l'écart de salaire qui est présenté par l'INSEE est de l'ordre de 19%. Et surtout, c'est un chiffre qui n'évolue pas. Et au-delà de ce chiffre, il y a tout le sujet des statuts, des conditions de travail, du partage des tâches, du partage des responsabilités, des stéréotypes de sexe. Donc, ces sujets des inégalités au travail entre les femmes et les hommes, il est multidimensionnel et c'est très important de l'aborder ainsi.
Comment avez-vous construit ce pacte 2022, rédigé ce pacte 2022 pour l'égalité professionnelle entre femmes et hommes ? Sur quoi vous êtes-vous appuyé ?
Le Laboratoire de l'égalité, on est une association, nous fêtons nos 10 ans et nous rassemblons, alors on était 5, je suis cofondatrice, on était 5 autour de la table il y a 10 ans. Aujourd'hui, on rassemble 1700 personnes impliquées sur le sujet de l'égalité au travail. Et bien, on fait travailler toute cette expertise depuis 2 ans et petit à petit, par cercle concentrique, on avance sur des propositions qu'on a regroupées autour de 3 thèmes qui nous paraissent vraiment essentiels à faire avancer dans le débat public et auprès des entreprises et des employeurs.
Quels sont-ils ces grands thèmes ?
Bah écoutez, on tourne encore sur l'autonomie économique des femmes, puisque il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes sans émancipation et sans autonomie et émancipation des femmes et autonomie économique des femmes. Et lorsqu'on voit les inégalités de salaire, on peut se dire qu'il y a encore du retard. En lien avec cette émancipation, il y a le sujet du partage égalitaire de la prise de décision. On est encore sur des postes à responsabilité qui sont occupés à 85% par des hommes. Donc, il serait peut-être temps qu'on fasse aussi bouger ces statistiques-là. Et puis, le deuxième grand axe, c'est le sujet d'un partage d'une culture commune de l'égalité durable. Tant qu'on est encore nourri aux stéréotypes de sexe qui nous font penser que numéro 1 serait masculin et que numéro 2 serait féminin, on n'avancera pas. Et puis enfin, évidemment, le rôle des politiques publiques est essentiel pour faire avancer la société au global, même si chacun, chacune, on a aussi entre les mains les moyens de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes.
Vous parlez de stéréotypes, il faut agir dès l'enfance, ce n'est pas fait ça?
Ben oui, c'est pour ça que, par exemple, le sujet de la formation des personnels éducatifs reste encore la pierre angulaire en le faisant démarrer déjà dès la formation du personnel de la petite enfance, parce que tant que on sera encore à lire des livres où papa est dans son fauteuil avec une pipe et maman avec son tablier à faire la cuisine, et je ne veux pas nommer les livres qui portent ces stéréotypes, ben on n'avancera pas.
Ce n'est pas la première fois que vous interpellez les candidates et candidats à l'élection présidentielle pour signer le pacte pour l'égalité. C'était le cas déjà en 2012, puis en 2017. Avez-vous constaté des avancées? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Et croyez-vous qu'en 2022, vous allez enfin obtenir ce pourquoi vous vous battez, une égalité effective entre femmes et hommes?
Alors, quand on avait fait le bilan en 2017, on était assez contents parce que 60% des propositions du pacte 2012 avaient été mises en application. Alors, on ne veut pas dire que le laboratoire de l'égalité, on est les seuls à faire avancer le sujet, mais c'est vrai qu'on a une vision assez globale. Et il y avait eu quand même un grand mouvement. Dernièrement, il y a un sujet qui a énormément avancé, qui est le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes. En revanche, sur ce qui est l'égalité au travail, sur ce qui est par exemple le sujet de la parentalité, on a pris quand même du retard sur ces sujets-là, même si des avancées ont eu lieu à travers l'index de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire un indice que les entreprises doivent calculer pour montrer où elles en sont. Mais par exemple, sur le sujet de la parentalité, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, par exemple, de programme pour développer le nombre de places d'accueil de la petite enfance, développement de places de crèche, etc. C'est sorti du débat public et ça nous semble essentiel de remettre ces sujets-là en avant, de la même façon qu'un sujet qui reste trop enfoui à notre goût, mais c'est le sujet de la précarité et de la pénibilité du travail des femmes. Donc, je ne veux pas vous le dévoiler. Retrouvez-nous ce soir à 18h. Vous pouvez encore vous inscrire, si vous voulez, sur notre site du Laboratoire de l'égalité à 18h ce soir.
Et ce pacte 2022 sera ensuite soumis aux candidates et candidats à la présidence de la République. Merci beaucoup, Corinne Hirsch, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la cofondatrice et vice-présidente du Laboratoire de l'égalité. Merci.
Merci, au revoir.
Il est 5h47 et c'est l'heure de retrouver Nicolas Carreau pour son conseil lecture. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, cette semaine, vous nous emmenez dans l'univers gothique de Cécile Coulon pour son nouveau roman « Seul en sa demeure » aux éditions L'Iconoclaste.
Et je vous lis le début, vous allez voir, ça donne le ton. « Par un beau dimanche de mars, où le soleil poussait doucement l'hiver hors des forêts obscures, Jeanne Marchère mourut dans la travée principale de la petite église des Saints-Frères. » Pas mal, le soleil qui pousse l'hiver hors des forêts obscures, non?
Oui, mais il a beau chasser l'hiver, le soleil, l'ambiance de ce livre a l'air plutôt lugubre, hein.
Absolument. Cécile Coulon, qui n'a pourtant qu'une trentaine d'années, s'inscrit dans la grande tradition des romans gothiques du 19e, Dracula, Jekyll and Hyde, Le Moine et autres romans joyeux. Mais la particularité de Cécile Coulon, c'est aussi l'Auvergne, où elle vit et où se passait son précédent roman. Là, on est encore dans une ambiance rurale, mais dans le Jura, cette fois, le décor s'est imposé à elle. Cécile Coulon.
Il y a quelques années, enfin il y a 6 ou 7 ans, j'étais allée faire un festival à Besançon qui s'appelle Les Petites Fugues, qui est un très beau festival itinérant. Et un soir, le crépuscule est là, je passe en voiture devant les mines salines d'Arquessenant, qui sont les anciennes mines de sel royales. C'est un endroit absolument fabuleux et c'est sublime, mais quand on y passe de nuit au mois de novembre, c'est vraiment un décor de Stanley Kubrick, c'est Shining, quoi. J'ai eu un serrement de cœur en passant là. J'ai été envahie par une très très forte émotion, et quand on écrit des livres, quand on sent cette émotion-là, qui est assez rare à arriver, on essaye de comprendre pourquoi elle est là. Et je me suis dit, ce serait un décor fabuleux pour un livre. Et donc, 7 ans plus tard, voulant partir un peu en vacances de l'Auvergne, cette idée est revenue, ce serrement de cœur a refait surface.
Et que se passe-t-il dans ce décor, Nicolas ?
Alors, il était une fois aimé, une jeune fille, on est donc au 19e siècle. Elle épouse Candre, un jeune héritier veuf. C'est un mariage arrangé, mais pas forcé. Et ça lui convient plutôt à aimer. Il est charmant, ce Candre Marchère. Il est différent, plutôt effacé, discret, un peu triste. Mais au moins, c'est pas un rustre du coin. Et en plus, il est riche, mais un peu inquiétant aussi. Pour tout dire, il a un côté Dracula, très pâle, évanescent, un peu spectral. Il se marie donc et Aimée part vivre dans son domaine dans la Forêt d'Or, vaste mais un peu oppressant. D'ailleurs, elle se retrouve un peu prisonnière du domaine et l'ambiance devient angoissante. Elle n'est pas séquestrée au sens strict, physiquement elle pourrait partir, mais elle est comme sous l'emprise des lieux. Elle n'est pas seule avec Candre, il y a aussi Henria, la gouvernante, Angelin, son fils, une sorte d'enfant sauvage, très étrange aussi, mutique, qui passe comme ça dans les couloirs comme un chat, et puis Emmeline, la professeure de flûte d'Aimée, un rayon de soleil dans cette obscurité. Et puis quelques fantômes du passé aussi, comme la précédente femme de Candre, par exemple. Que lui est-il arrivé exactement? On ne sait pas trop.
Alors Candre, Andre, Aimé, Angelin, Henria, le choix des prénoms n'est pas banal.
Ah ça, c'est le grand truc de Cécile Coulon. Les prénoms, c'est important. Elle a d'ailleurs une méthode bien à elle pour les dénicher.
Quand je commence à écrire le texte, les deux premières choses que je fais, c'est d'une part trouver le décor et le lieu, et ensuite je me fais une liste de prénoms. Donc c'est pas un dictionnaire, c'est pas aussi épais qu'un dictionnaire, mais je me fais mon propre vivier vivant de prénoms. Et pour les trouver, je vais énormément sur les monuments aux morts à chaque fois que je traverse un village. Je vais voir les monuments aux morts, d'une part parce que je pense que ça a du sens d'aller passer quelques secondes ou quelques minutes là où d'autres ont donné leur vie. Et si je lis les prénoms inscrits sur les dalles, je suis toujours estomaquée par leur beauté, par leur sens romanesque, par leur sensible aussi, l'aspect sensible de ces prénoms-là. Donc je ne sais pas si c'est une façon de les réhabiliter, mais en tout cas d'aller mettre de la grande histoire dans la petite, c'est certain.
Et pour les femmes, elles cherchent chez les arrière-arrière-grandes-tantes ou cousines de sa famille ou de ses lecteurs pour les trouver. Et ça donne aussi cette ambiance de conte ou de roman gothique. Très juste, il y a du Rebecca de Daphné du Maurier ou du Barbe Bleue dans ce livre. Un vrai roman romanesque.
Seul en sa demeure donc de Cécile Coulon aux éditions de l'Iconoclaste. Merci Nicolas Carreau et on vous retrouve dans votre émission La Voix et Livre dimanche à partir de 14h sur Europe 1.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h51, c'est le journal permanent, l'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince.
Hausse inédite depuis 8 ans, les tarifs du gaz vont augmenter de 12,6% à partir de vendredi. 3 millions de foyers sont concernés. Un œuf jeté sur Emmanuel Macron au Salon international de la restauration et de l'hôtellerie hier à Lyon. L'agresseur immédiatement maîtrisé par les CRS serait un militant d'extrême gauche inconnu des services de police. Il a été placé en garde à vue. Le président qui va au ministère de la Santé cet après-midi en déplacement en clôture des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Début de la deuxième phase du procès des attentats du 13 novembre 2015, aujourd'hui consacré aux témoignages des victimes et de leurs proches. Cet après-midi, l'audience sera consacrée au Stade de France jusqu'à fin octobre. 300 personnes se succéderont à la barre.
Europe Matin.
L'actualité de ce mardi s'écrit aussi dans vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article de la presse régionale raconté par celui ou celle qui l'a écrit. Et aujourd'hui, Julien, eh bien, on prend la direction de l'Aube.
Bonjour Bruno Dumortier.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de L'Est éclair, où l'on découvre ce matin un article qui nous donne soif, puisqu'il est question de cidre, et plus précisément d'un jeune producteur prédestiné, en quelque sorte, à faire ce métier.
Et oui, prédestiné, car il s'appelle Thibaut Verger, et ce jeune homme de 24 ans se retrouve à la tête d'une exploitation de pomiculture de 30 hectares, qu'il a partiellement destinée au cidre, mais aussi au jus de pomme et à la pomme au couteau. La pomme à couteau, c'est la pomme qu'on mange sur la table. C'est une superbe aventure, parce qu'à 24 ans, il a repris une exploitation historique qu'il a rachetée, qui était bien connue ici, parce que c'était un personnage qui avait participé au sauvetage des vergers du Pays d'Hôte. Alors, le Pays d'Hôte, c'est une région juste entre Troyes et Auxerre, très vallonnée, avec beaucoup de bois, et une région historique de production de pommes pour le cidre.
On a donc un jeune homme très ambitieux qui prend des risques et pour l'heure ça marche vu qu'il a plus que triplé son chiffre d'affaires en seulement 3 ans.
Tout à fait. Alors, c'est un jeune homme qui est étonnant, 24 ans, la tête sur les épaules. Il a son plan d'investissement, il le fait, il le suit, il vient de construire un nouveau bâtiment pour presser les pommes. Et pour les commercialiser, il utilise tous les canaux possibles, circuits courts évidemment, circuit long aussi, parce qu'il ne s'interdit pas de vendre dans les grandes surfaces, mais aussi dans les boulangeries, dans la restauration. Tous les canaux sont bons, et en plus, ça marche super bien. Il a un peu le sens du marché, puisqu'il a, par exemple, adapté une petite bouteille de jus de pomme, parce que le cidre, finalement, c'est 25 000 bouteilles, le jus de pomme, c'est 80 000 bouteilles. Ça marche beaucoup mieux, et des petits formats de 33 centilitres qu'on vend en boulangerie, ça marche du feu de Dieu.
Ils cultivent quelle variété de pommes exactement ?
Alors, ils cultivent des variétés qui sont soit des variétés aujourd'hui très populaires pour leur facilité de culture, mais aussi des variétés locales comme le Havrol et Cul d'Oison, qui sont des noms locaux, et qu'ils tiennent à garder parce que dans le cidre, ça donne la typicité du cidre du Pays d'Hôte. Alors, le cidre du Pays d'Hôte, on peut en parler pendant longtemps, mais c'est un cidre qui est très particulier, assez acide, mais très agréable à boire. Hein. Quand on dit acide, on a l'impression que c'est pas bon. En fait, c'est excellent, mais c'est très différent. C'est beaucoup plus typé que les cidres des grandes maisons de Bretagne ou de Normandie. Et c'est un cidre qui aurait bien aimé avoir une appellation d'origine contrôlée. Il y a eu des longs débats, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus qu'une quinzaine de producteurs hein, sur l'Aube et sur Lyon, donc entre Troyes et Auxerre. Et donc, la difficulté, c'est de remonter, d'avoir une vraie production pour ensuite peut-être avoir un signe distinctif, une AOP. Ça demande un peu de temps, mais tout le monde tourne un tout petit peu autour parce que le cidre est une boisson qui demande à retrouver ses lauriers.
Oui, qui revient en quelque sorte au goût du jour parce que c'est relativement peu alcoolisé et c'est facile à boire.
C'est ça, peu alcoolisé, facile à boire, c'est un produit naturel, surtout ici, parce qu'on le fait avec des levures indigènes, donc on n'a même pas besoin d'en ajouter. C'est directement sorti du pressoir et fermenté. Un côté nature qui est particulièrement sympathique. Le problème, c'est que l'image du cidre en France, ça reste associé à la crêpe, à la Bretagne, à la Normandie. Et il faudrait que les lauriers de la boisson s'améliorent pour que ça puisse se commercialiser un peu plus largement.
En tout cas, c'est ce à quoi s'emploie ce jeune homme de 24 ans. Merci beaucoup, Bruno Dumortier, de nous avoir fait découvrir l'un des articles à lire donc aujourd'hui dans L'Est éclair. Très bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
À bientôt.
C'était Silk Sonic sur Europe 1, le super duo du R&B composé de Bruno Mars et d'Anderson .Paak. On écoutait Skate, chanson qui figurera sur l'album qui sortira en janvier prochain.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h58, très bon réveil à tous. On jette un coup d'œil sur la suite du programme avec cette pression, Julien, qui monte doucement pour les supporters du PSG.
Oui, car ce soir, c'est le match le plus important de ce début de saison, le choc en Ligue des Champions face à Manchester City. Les Anglais avaient été les bourreaux des Parisiens il y a 5 mois en demi-finale. L'heure de la revanche a sonné, mais les joueurs du PSG vont-ils être capables d'élever leur niveau de jeu ? Pas franchement flamboyant depuis le début de la reprise. On attend une équipe, on a en l'occurrence plus un empilement de de stars. Mbappé, Neymar et Messi vont-ils enfin se sacrifier pour le collectif? Eh bien, on en parle dans une dizaine de minutes avec notre consultant, l'ex-joueur et entraîneur du PSG, Laurent Fournier. Et puis juste après, votre partition, Omblin.
Il s'est imposé dans les années 80 comme l'un des fers de lance de la New Wave en France. La partition de Taxi Girl, emmenée par le chanteur torturé Daniel Darc, dans 20 minutes.
La météo, Anissa Azadi, un peu de grisaille ce matin.
Oui, dans l'Est, des Ardennes jusqu'aux Alpes, en passant par l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, dans le centre-Est, soyez prudents ce matin. Mais quand il y a de la grisaille, ça veut dire qu'il y aura du soleil l'après-midi. Et effectivement, le soleil va briller sur une grande partie du pays, sauf en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, où une nouvelle perturbation arrive. Cet après-midi, on aura 17 degrés à Gérardmer, 18 pour Aurillac, 19 à Quimper et Belfort, 20 degrés à Paris, 21 à Lyon et 27 pour Ajaccio.
Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous. C'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Le prix du gaz explose, plus 12,6% dès vendredi et ça va continuer au moins jusqu'au printemps. Retour à la normale, pas avant 2023. Marseille, les poubelles s'entassent encore. Nouvelle grève des éboueurs, des crispations autour du temps de travail des agents. La métropole veut passer aux 35 heures. Et puis panique à la pompe au Royaume-Uni. Les stations-service sont à sec. La faute à une pénurie de chauffeurs routiers. Les autorités vont délivrer en urgence plus de 10 000 visas pour les travailleurs étrangers. Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. 3 millions de consommateurs, vous peut-être, sont concernés par cette flambée des prix réglementés du gaz. Plus 12,6% dès vendredi. Quatrième hausse consécutive depuis le 1er juillet. Une explosion telle que le médiateur de l'énergie lui-même encourage les clients à changer de fournisseur. Les explications d'Aurélien Fleureau.
Record sur record. Les hausses du prix du gaz sont historiques dans le monde entier et si l'Europe est particulièrement impactée, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, les stocks sont plus bas que d'habitude. La demande a fortement repris ces derniers mois, notamment sur le gaz naturel liquéfié. Et puis, les pays producteurs ne peuvent pas livrer plus. En Europe, c'est le cas de la Norvège ou de la Russie, qui a encore été pointé du doigt il y a quelques jours par l'Agence internationale de l'énergie. Moscou, accusé de faire grimper les prix pour asseoir son monopole. Faux, se défend la Russie, qui explique assurer les contrats sans pouvoir aller au-delà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette situation va durer. La France importe la quasi-totalité de sa consommation de gaz naturel et est directement impactée par les variations des prix du marché. Des prix qui vont rester très hauts, au moins jusqu'au printemps prochain, anticipe la commission de régulation de l'énergie, qui n'imagine pas un retour à la normale avant 2023.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 a noté que ce matin, le prix du Brent passe au-dessus de 80 dollars le baril, niveau inédit depuis octobre 2018.
Des poubelles qui débordent sur les trottoirs à Marseille avec une nouvelle fois une grève des éboueurs. Crispation autour de la question explosive du temps de travail. Avec la loi de transformation de la vie publique, la métropole doit faire passer ses agents aux 35 heures.
La fin donc du parti fini. Un arrangement avec les autorités locales qui permettent aux éboueurs de rentrer chez eux une fois leur tour terminée. Un changement de rythme inadmissible pour ces agents qui durcissent la grève ce matin sous la houlette du syndicat majoritaire Force Ouvrière. Le reportage à Marseille de Stéphane Burgat.
Les premiers stigmates sont déjà visibles, des amoncellements dans des petites rues comme ici autour de la gare Saint-Charles.
Et oui, ça commence à s'entasser et c'est pas normal que nous on ait un parti des grèves malheureusement parce qu'on ne peut pas même pas rentrer dans le local poubelle, c'est à ras-bord et en plus ça sent pas bon, en plus ça tire les bestioles, ça tire les rats et les rats après finissent par monter dans les étages et voilà, et vice versa, on subit.
Et les commerçants comme Mohamed, un jeune barbier, doivent déjà s'organiser.
Oui, c'est trop, toute la journée là, les clients qui passent, c'est mal pour le travail. C'est grave, hein. Là, devant nos portes, c'est pas bien. Hein.
Mais ce bras de fer est inévitable face à une réforme qualifiée d'injuste par Patrick Ruet, le secrétaire général de FO Territoriaux à Marseille.
Tout le monde est sur le pied de guerre. Ah, ils sont furieux. Ils sont furieux parce que, imaginez-vous, on vient vous voir, votre patron vous dit, vous allez travailler 28 jours supplémentaires et pour ça, vous n'aurez pas un euro de plus parce qu'il faut harmoniser. Ben, vu la difficulté des négociations, on n'est pas très optimiste pour tout vous dire.
Et au regard des critères de pénibilité du ramassage des ordures dans la ville, le syndicat majoritaire entend bien négocier ce nouveau temps de travail applicable au 1er janvier. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
6h03, la suite de votre journal avec cette nouvelle étape dans le procès des attentats du 13 novembre 2015.
Dès aujourd'hui et jusqu'à fin octobre, la cour d'assises spéciale va entendre quelques 300 parties civiles rescapées et proches des victimes. Cet après-midi, l'audience sera consacrée au Stade de France. 3 explosions, 1 mort et 63 blessés, dont Sarah, une jeune femme de 28 ans.
J'étais à côté du kamikaze, c'est là où il y a eu la première détonation, donc j'ai été projetée à terre. Brouillard, j'entendais plus rien. J'ai couru au niveau de la porte D, tout droit. Enfin, j'ai pas couru, hein. J'ai vu un policier qui m'a directement porté secours. Et au moment où on m'a mis la couverture de survie, la deuxième détonation a retenti. J'étais complètement effrayée. Je suis partie à l'infirmerie, je suis restée jusqu'à au moins minuit et demi. Donc on ne pouvait pas me donner d'antidouleur ni rien parce que j'avais une grosse blessure au niveau du front. Je n'ai pas que ça comme cicatrice. Hein. Honnêtement, j'ai 18 impacts dans le corps. Mais bon, on vit avec. Personne n'a mérité ça. Enfin, ils attaquent des personnes. On est sans armes, on n'a rien. On n'a rien pour se défendre. C'est dégueulasse de faire ça.
Le témoignage de Sarah au micro de Marion Dubreuil pour Europe 1.
Sorry, out of service. Désolé, hors d'usage. Ces panneaux se multiplient dans les stations-service du Royaume-Uni. Le géant pétrolier BP a annoncé qu'un tiers de ses pompes étaient à sec dans le pays. La faute à une pénurie de chauffeurs routiers.
Et ce n'est pas le seul secteur concerné par ce manque de main-d'œuvre. Conséquence de la pandémie et du Brexit qui complique le recrutement des travailleurs étrangers. Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Finalement, face à la crise, le gouvernement recule et compte distribuer en urgence plus de 10 000 visas temporaires.
Oui, et ça montre l'urgence de la situation, car Boris Johnson avait toujours refusé cette possibilité. Mais il n'a plus le choix, il manque 100 000 chauffeurs routiers dans le pays. De leur côté, les agriculteurs et acteurs de l'industrie alimentaire manquent de bras dans les élevages, les champs et les usines. Ils craignent des pénuries dans les supermarchés à la période de Noël et réclament au gouvernement des visas de travail d'un an minimum pour faire revenir les Européens. Les secteurs du soin à la personne, de l'hôtellerie-restauration et la construction sont également touchés de plein fouet. Résultat, les offres de salaire s'envolent, comme l'explique Jack Kennedy, analyste du marché du recrutement.
Dans ces secteurs, l'augmentation des salaires crée une telle pression que bientôt, les entreprises ne vont plus pouvoir absorber ce coût. Et ce sont les prix qui vont augmenter pour les consommateurs. Donc tout ça va être un obstacle à la croissance et à la reprise économique.
Et selon la plus grande organisation patronale, l'équivalent britannique du MEDEF, cette pénurie de main-d'œuvre pourrait durer encore 2 ans.
L'éclairage d'Anaïs Cordoba, correspondante à Londres pour Europe 1.
La France qui est elle aussi confrontée à un manque de personnel, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Hier, Emmanuel Macron a annoncé la défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire.
Annonce lors d'un déplacement au CIRA, c'est la grand-messe de la gastronomie à Lyon. C'est là aussi que David Tissot a remporté le Bocuse d'or, sorte de coupe du monde des chefs. Alors ça faisait 8 ans que la France n'avait pas remporté le trophée. Juste pour vous, je vous donne quand même le menu de la victoire. On est sur un paleron de bœuf charolais, jus braisé et ravioles d'artichaut. Voilà, bon appétit.
Ça a l'air pas mal du tout. Merci
bon petit
beaucoup,
déjeuner.
Roman Hockey.
Il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange est un choc ce soir. Martin, le PSG reçoit Manchester City en Ligue des Champions.
Oui, c'est la revanche de la demi-finale de l'an dernier. Les Parisiens s'étaient inclinés 2 fois, à l'aller et au retour. Depuis, c'est peu dire que Paris s'est renforcé avec l'arrivée notamment de Messi ou Donnarumma, 2 joueurs qui devraient être titulaires ce soir. Mais du côté de Manchester, moins que les individualités, c'est le collectif qui prime. Un collectif qui a déjà inscrit 24 buts en 8 matchs depuis le début de la saison, qui a aussi asphyxié le champion d'Europe Chelsea le week-end dernier et qui peut compter sur un atout de poids, son entraîneur Pep Guardiola. Écoutez les louanges de son homologue Mauricio Pochettino.
Nous avons joué contre un Manchester City qui, selon moi, est le meilleur entraîneur du monde, Pep Guardiola, et qui a aussi le rêve de gagner la Ligue des Champions comme nous. Mais il faut être patient. Ne soyons pas hypocrites. Dans ce processus, Manchester City est plus avancé que nous. Mais c'est un match de foot, tout peut arriver.
Mauricio Pochettino au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie. Paris-Manchester, c'est à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 à partir de 20h. Et puis à 8h40, ne ratez pas l'interview exclusive du capitaine parisien Marquinhos au micro de Jean-François Pérez.
Dans les autres matchs de la soirée,
Une autre affiche d'outsider, cette fois le Milan AC reçoit l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, Liverpool se déplace à Porto et puis la surprise, les Moldaves du shérif Tiraspol se rendent à Santiago Bernabéu pour affronter le grand Real Madrid.
Foot toujours, il y avait de la Ligue 2 hier soir.
Oui, le leader Toulouse chute pour la première fois de la saison, défaite à domicile 3-2 contre Caen. Et puis une information de la nuit, les clubs à l'origine du projet avorté de Super Ligue européenne ne seront pas sanctionnés, c'est l'UEFA qui l'annonce dans un communiqué.
Enfin Martin, deux infos en bref.
Antoine Dupont, star de la nuit du rugby, le demi-mêlée de Toulouse et des Bleus, est élu meilleur joueur du top 14 et meilleur international français. Et puis un peu de tennis, Benoît Paire franchit le premier tour du tournoi de Sofia. Ça coince pour Adrian Manarino. Chez les filles, élimination dès le premier tour à Chicago pour Alizé Cornet et Caroline Garcia.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Martin Lange.
6h08 sur Europe 1, vous restez avec nous dans un instant. Nous serons avec notre consultant foot, Laurent Fournier, ex-joueur et entraîneur du PSG, alors que le club parisien, Martin vient de nous le dire, va avoir fort affaire ce soir face à Manchester City en Ligue des Champions. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Vous arrivez juste, soyez les bienvenus. Il est 6h12 et c'est le match qu'attendent tous les amoureux du ballon rond. PSG-Manchester City, deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. On en parle, Julien, avec un ancien joueur et entraîneur du PSG, notre consultant Laurent Fournier.
Bonjour Laurent Fournier.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous à l'approche de ce premier gros choc de la saison pour le Paris Saint-Germain. Le PSG qui est dans une situation quelque peu paradoxale. Invaincu depuis la reprise, 8 matchs, 8 victoires en Ligue 1, c'est parfait sur le plan comptable. En revanche, on ne peut pas en dire autant du jeu proposé par les Parisiens. Est-ce que ça vous inquiète pour ce soir ?
Inquiétant, oui et non. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain a été en difficulté à Bruges contre une équipe qui a joué de l'avant, qui a essayé de créer quelque chose. Après, en championnat de France, c'est assez facile, même si j'ai vu le match de Clermont, j'ai vu le match de Strasbourg au Parc. Ils ont été en difficulté sur les côtés. Maintenant, c'est un match de Ligue des Champions. Je crois qu'ils vont être super motivés, et surtout contre City.
Oui, qui est l'une des toutes meilleures équipes du monde. Alors peut-être moins de stars sur le papier, mais un jeu autrement plus abouti pour l'heure qui oblige en fait ses adversaires à faire énormément d'efforts sur le terrain. C'est ça la clé du match de ce soir, que Mbappé, Neymar et Messi, s'il peut jouer, fassent enfin des replis défensifs.
Il va falloir qu'ils travaillent défensivement pour le bien de l'équipe. Après, ça va être aussi difficile au milieu. Je crois que s'ils laissent partir les défenseurs de City, les milieux de terrain du Paris Saint-Germain et les défenseurs vont avoir du mal.
Comme ils avaient eu du mal il y a 5 mois en demi-finale de Ligue des Champions, les Anglais l'avaient emporté à l'aller et au retour face au PSG. Alors on lit ici ou là, oui, mais ils peuvent se transcender sur un match. Est-ce que ce n'est pas là le fond du problème, que cette équipe n'arrive pas à maintenir un niveau de jeu très élevé, quel que soit l'adversaire en face ?
Moi, je dirais que le Paris Saint-Germain va être obligé d'élever son niveau contre City. L'année dernière, au Parc, PSG avait été très bon en première période. City, en deuxième mi-temps, était revenu avec d'autres intentions, avait mis le PSG en difficulté. Je crois que sur un match de Ligue des Champions, il faut être à 200%. Et il faut que toute l'équipe tire dans le même sens. Et j'espère que ce soir, le Paris Saint-Germain va réussir à mettre en difficulté City et surtout jouer ensemble. Parce que c'est pas ce qu'on a vu depuis le début de saison. On a des joueurs qui font beaucoup d'efforts défensivement et il va falloir que les trois devant en fassent aussi.
Laurent Fournier, est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème Kylian Mbappé au PSG ? Je vous pose cette question parce qu'il ne marque plus, alors ça arrive même au meilleur, mais depuis quelques matchs, il boude ostensiblement, voire il s'agace contre ses coéquipiers.
Je dirais que le problème, c'est qu'il a été très bon depuis le début de saison. On a vu sur les premiers matchs de championnat où c'est lui qui faisait la différence. Neymar n'était pas là, Messi n'était pas là. Je crois que ça lui donnait énormément de confiance. Là, maintenant, les trois ensemble, il va falloir qu'ils jouent, qu'ils essayent de combiner. Et on a vu sur deux, trois situations, les joueurs ne se passent pas le ballon. On a vu avec Neymar, on a vu aussi avec Mbappé sur un match de championnat où il a oublié Rafinha sur le côté. Maintenant, il faut que collectivement, le PSG soit au-dessus, que chacun oublie de faire des exploits individuels, que chacun joue pour le collectif. Et je crois que si tout le monde est dans la même lignée, ça passera.
C'est pas un problème, cette accumulation d'ego surdimensionné dans un vestiaire ?
C'est difficile à gérer. Après, vous avez des attaquants, mais vous avez aussi les deux gardiens. À un moment, quand vous jouez la Ligue des Champions, tout le monde a envie d'être sur le terrain. On n'a pas envie d'être remplaçant. Mais là, je dirais que c'est le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions au Parc des Princes. Ce soir, il va avoir les supporters qui vont être tous derrière eux, il ne va pas falloir se louper parce qu'avec le match nul à Bruges, ça va être difficile. Hein.
Oui, il serait bien de glaner le maximum de points ce soir, sachant que les Parisiens en ont déjà perdu deux face à Bruges il y a deux semaines. Vous le disiez, la question des gardiens n'a toujours pas été tranchée parce qu'un coup c'est Navas, un coup c'est Donnarumma. Est-ce que ce n'est pas problématique ça pour une équipe de ne pas avoir un numéro 1 attitré dans les cages ?
Parce que nous on avait eu ça quand on était au Paris Saint-Germain avec Revault, avec Bernard Lama. J'avais connu ça aussi à Marseille avec Pascal Olmeta et Gaëtan Huard. Je crois que maintenant il faut faire des choix. Celui qui va jouer ce soir contre City doit être performant, mais l'autre va être mécontent. Alors là maintenant c'est le coach qui doit prendre ses responsabilités. Parce que les deux sont très bons. Hein. Donnarumma a fait un super Euro, Navas a été très performant avec le Paris Saint-Germain. Après, il faut que les coéquipiers aussi l'acceptent, que ce soit Donnarumma ou Navas qui soient dans les buts.
Dernière question, Laurent Fournier. Et là, je m'adresse à l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain que vous êtes. Vous aligneriez d'emblée Mbappé, Neymar et Messi ce soir ou vous en laissez un sur le banc ?
Non, je pense qu'aligner les trois, ça donne une certaine assurance. Leur parler avant, je dirais que les responsabiliser. Leur dire que derrière, les milieux de terrain vont avoir besoin d'eux, surtout contre City. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, si Neymar, Mbappé et Messi sont capables de faire la différence collectivement et individuellement, je crois que les autres derrière vont travailler pour l'équipe. Et là, je pense que le Paris Saint-Germain peut obtenir le meilleur résultat possible.
Merci beaucoup Laurent Fournier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes notre consultant et qu'on vous retrouvera ce soir à l'antenne aux côtés de Lionel Rosso, notamment pour une soirée spéciale des 20h sur Europe 1. Mais avant, ne manquez pas le Zoom Info à 8h40 dans la matinale de Dimitri Pavlenko avec un invité exceptionnel, Marquinhos, le capitaine du PSG. Encore merci Laurent Fournier et à ce soir.
Merci.
Il est 6h18, vous restez avec nous. La partition de Taxi Girl à suivre.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h20, bon réveil à vous. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi avec Alban Le Prince.
C'est le premier grand choc européen de la saison en Ligue des Champions, PSG Manchester City. Paris qui compte bien prendre sa revanche sur la dernière demi-finale perdue à quelques heures du match. Marquinhos, capitaine du PSG, sera l'invité d'Europe 1 ce matin à 8h40. Un coup dur pour le porte-monnaie de 3 millions de foyers qui se chauffent ou cuisinent au gaz. Les tarifs vont exploser à partir de vendredi, plus 12,6%. Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau, il va falloir trancher. Début du second tour de la primaire écologiste. Aujourd'hui, le nom de celui qui représentera les Verts à la présidentielle de 2022 doit être connu mardi à 17h30.
On en vient à votre partition, Omblin, inspirée ce matin par un livre signé Jean-Emmanuel Deluxe, consacré à la French New Wave. Ce courant né en Grande-Bretagne après l'explosion du punk va être indissociable de la musique des années 80 en France. À grand renfort de synthé et de boîte à rythme, cette nouvelle vague va favoriser les sortes d'artistes comme Étienne Dao, Indochine, mais aussi Omblin, le groupe Taxi Girl.
On peut même l'affirmer, Julien, ils sont les précurseurs du genre dans l'Hexagone. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans la musique de Taxi Girl, hypnotique, avec cette voix qui traîne, désinvolte et une partition jouée par des garçons punk et dandy à la fois.
L'histoire de Taxi Girl commence au lycée Balzac à Paris, près de la Porte de Clichy.
Un groupe d'ados composé de Mireille Stas, Stéphane Erard, Laurent Sinclair, Pierre Wolfson et puis bien sûr l'ange noir Daniel Darc. Leur nom de scène est choisi en référence à un épisode de James Bond avec Roger Moore. À la différence de nombreux groupes qui tentent leur chance, Taxi Girl bénéficie d'un tremplin de choix. Le père du batteur n'est autre que Jacques Wolfson, directeur artistique chez Vogue. C'est lui qui a lancé les carrières de Jacques Dutronc et Françoise Hardy.
Taxi Girl a donc toutes les cartes en main pour sortir du lot.
Oui, et pourtant, avec la drogue comme mauvais génie, un voile sombre va inexorablement planer au-dessus de leur tête. Très vite, la courte carrière de Taxi Girl est entachée de conflits, de drames et de scandales du mouvement punk. Taxi Girl a conservé le Destroy lors d'un concert en première partie des Talking Heads au Palace. Le provocateur Daniel, très dark, se taillade les veines sur scène.
Je suis sûr que tu sais.
Le premier disque sort en 1980 et prend tout le monde de court.
Il installe les Parisiens comme chef de file de la New Wave française. Jean-Emmanuel Deluxe écrit « Les concerts du groupe sont à l'image de Daniel Darc, imprévisibles et chaotiques. Le bassiste Stéphane Erard fait le choix de quitter le navire. L'année suivante, à l'âge de 21 ans, Pierre Wolfson succombe à une overdose. Ils ne sont plus que trois. Et pendant que leur deuxième album, le très sombre Seppuku, paraît, leur succès « Chercher le garçon » sort en Grande-Bretagne, chanté en anglais.
Nouveau désaccord et le groupe est réduit à un duo.
Oui, il ne reste plus que Mirwais et Daniel Darc. Lentement mais sûrement, la fin de Taxi Girl est annoncée. Le guitariste devient producteur, s'occupe en partie de certains albums de Madonna, notamment « Music ». Quant à Daniel Darc, l'écorché vif du rock français, son parcours va alterner entre épisodes dans le creux de la vague, des retours flamboyants jusqu'à sa disparition en 2013.
Je me souviens, je me rappelle, ces temps, ces vieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle, je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me souviens, je me rappelle, très doucement jouait le vent. Alors elle me semblait si belle, alors moi j'avais tout le temps. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit.
Daniel Darc, apaisé, le chanteur de Taxi Girl avec Je me souviens, je me rappelle. Taxi Girl, fer de lance de la New Wave à la française, mais aussi Marquis de Sade, Jacques Noël, Indochine, Suicide Roméo. Vous les retrouvez tous dans le livre French New Wave de Jean-Emmanuel Deluxe, paru ce mois de septembre aux éditions Fantasque.
Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous dans un instant, la French matinale de Dimitri Pavlenko. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin.
Il est 6h27 sur Europe 1 et c'est l'heure pour nous, Julien, de s'éclipser. Mais vous restez.
Pour la suite de votre matinale avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.